Bonjour à tous, il est 19h et vous êtes en direct sur Radio Campus Paris.
Roulez vieillesse, l'émission où les jeunes ne sont pas ce que vous croyez.
Roulez vieillesse.
Bienvenue dans l'émission où les jeunes ne sont pas celles et ceux que l'on croit. Des jeunes parlaient de vieux. Original, non? Étonnant, ça l'est. La vieillesse marque la dernière partie de notre vie. Elle est donc tout autant importante que notre adolescence ou notre enfance.
Roulez vieillesse, l'émission où les jeunes ne sont pas ceux que vous croyez.
Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui?
On se retrouve ce soir pour une émission différente de d'habitude. On s'attaque aujourd'hui à la vieillesse. Au programme, plein de questions sur la vieillesse auxquelles nous allons répondre. Quelle place celle-ci prend dans notre vie? Comment les personnes voient cette future vieillesse? Et quelle est la place des couples lesbiens au sein de celle-ci? Tant de questions qui seront répondues dans notre émission, au travers de témoignages, de chroniques et de lectures réalisées par nos intervenantes. On commence avec Jessica et Nelle, avec un entretien avec Anne-Marie Guimard, professeure émérite des universités en sociologie à l'Université Paris-Descartes.
Oui, j'ai 80 ans et je touche 1000 euros par mois.
J'ai 62 ans et c'est difficile. Et je ne sais pas encore, j'arrive pas à savoir combien je toucherai.
500 000 retraités continuent de travailler après leur retraite pour arriver tant bien que mal à joindre les deux bouts. On en parle souvent dans l'émission. Ça suffit à les protéger de la pauvreté ou pas?
J'ai peur que ce soit 100 euros de moins parce que déjà je mange plus à partir du 20. Avec 1000 euros par mois, pour rajouter. Les prix vont continuer à augmenter, j'ai peur de ne pas pouvoir vivre. Comme beaucoup de gens, comme les gens pauvres.
Comment vous le vivez ça, le fait de devoir vous limiter dans ce que vous achetez à manger?
Pas très bien, mais bon, on s'y habitue. On s'y habitue à la pauvreté.
Avec 1000 euros en payant toutes les charges, il me reste combien? Il ne me reste pas grand-chose. Je ne peux pas vivre. Décemment, c'est pas normal de nous laisser vivre comme ça. C'est la caisse de retraite qui m'a dit que j'aurais à peu près pareil. Je veux savoir exactement. Autrement, je vais être la mamie qui va voler dans les magasins si ça continue. Enfin, je vous dis ça à vous, mais faut bien que je mange, quoi. Faut bien que je vive. Et au bout d'un moment, je vais craquer comme plein de gens. Ils renforcent le système de sécurité dans les magasins. Mais quand on va être 10, 20, 30, quand on va être nombreux à ne plus pouvoir manger, on n'aura que ça.
Il y a une étude du ministère de la Santé qui nous montre que 1 400 000 seniors âgés de 53 à 69 ans n'ont aucun revenu, ni salaire, ni retraite. Parmi ces gens-là, 32% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comment s'en tirent-ils?
On ne sait pas jusqu'où on va, mais c'est grave.
Nous sommes avec Anne-Marie Guimard. Vous êtes notamment l'auteur de « Les défis du vieillissement, âge, emploi, retraite, perspective internationale », publié par Armand Collin en 2010 et traduit en japonais en 2019 par Édition Minerva à Kyoto. Madame Guimard, je suis contente que vous êtes là. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous.
Est-ce que vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre?
Oui, ça pointe une réalité souvent méconnue, parce que globalement, quand on mesure les niveaux de vie des retraités en comparant aux actifs, on constate que le niveau de vie des retraités est en moyenne légèrement supérieur au niveau de vie des actifs. Mais en fait, c'est un faux semblant. Et on vient de le voir, et donc c'est important que vous le disiez. En fait, quand on compare comme ça tous les actifs, c'est-à-dire aussi bien les jeunes, dont on sait qu'ils ont aussi des situations précaires et difficiles, et les gens en fin de carrière, pour les actifs, et de l'autre côté, vous mettez ensemble les jeunes retraités et les très âgés qui pour lesquels les retraites ne suivent pas l'inflation, par exemple, se détériorent au fil du temps parce qu'elles ne sont pas revalorisées. Et donc finalement, parmi le grand âge retraité, vous avez des gens sans moyens. Sans compter aussi, puisqu'on a parlé dans votre émission au début, des seniors. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, au fur et à mesure que l'âge de la retraite s'éloigne par les réformes successives, il y a ces ni-ni dont vous avez parlé, c'est-à-dire des personnes qui sont ni en emploi ni en retraite. Parce qu'en France, et c'est une spécificité hélas française, la sortie du marché du travail se fait plus tôt que l'entrée en retraite. La sortie du marché du travail se fait autour de 60 ans et l'entrée dans le système de retraite, ça se fait bien sûr à partir de 62 ans actuellement, peut-être plus tard compte tenu des projets gouvernementaux. Et donc, vous avez un gap, deux ans, en fait, entre l'âge moyen de sortie du marché du travail et l'âge de liquidation de la retraite. Et c'est, dans ces deux ans, les gens sont dans des situations précaires, parce qu'ils ont le chômage, ils ont l'invalidité, mais aussi, à partir d'un certain temps, ils sont aussi dans les minima sociaux. Et donc, dans des grosses difficultés financières.
Tout à fait. Là, vous avez déjà parlé de l'âge de retraite. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est en fait, à partir de quand est-on vieux ? C'est à partir quand on est en retraite ou c'est avant, c'est après ?
C'est une question difficile. Parce que ce que j'aime bien dans votre émission, c'est que vous prenez en compte la longévité. Parce que vous avez raison, vous êtes jeune, mais vous vous intéressez aux vieux, parce que la vieillesse, c'est l'avenir de tous quand on vit 100 ans. Aujourd'hui, l'espace de vie s'est considérablement accru, et donc tout le monde est. La vie, c'est 100 ans. Et donc la retraite, si vous prenez les seniors, souvent on les compte à partir de 55 ans, voire 50. Vous vous rendez compte que vous avez 50 ans de vie. Donc, quand on me demande à quel âge est-on vieux, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Je ne peux pas répondre. Personne ne peut répondre à cette question parce que vous avez une tranche de vie de 50 ou 40 ans. Évidemment que les gens sont dans des situations extrêmement différentes. Ça, c'est pour la France. Mais si vous me parlez au niveau mondial ou en comparaison internationale, on s'aperçoit que les situations des personnes âgées et donc la définition de qui est âgé dans une société est très différente. Au Japon, vous êtes âgé très tard parce qu'on travaille jusqu'à 70 ans passés et c'est normal. Et donc, vous êtes âgé peut-être au-delà de 75 ans.
Ben, on parle déjà des inégalités qui existent dans la vie, active, dans la jeune vie, mais aussi dans la vieillesse. Du coup, on le sait, il existe des énormes inégalités entre les personnes âgées.
Fixer un âge de la retraite, un âge légal de la retraite, comme on le fait, comme on cherche à le faire en France aujourd'hui, me semble une absurdité. Parce que, en plus, c'est inéquitable. Parce que vous avez des gens qui rentrent très tôt sur le marché du travail, notamment les professions, les ouvriers, et par rapport à des cadres qui vont rentrer beaucoup plus tard après de longues études. Et ils doivent tous s'arrêter au même âge. C'est très inéquitable.
Ok, merci. Merci. On va prendre la pause là. On parlera plus après la musique. Merci.
I've been out till 2:45. Would you lock postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me?
C'était When I'm 64 des Beatles. Vous êtes sur Radio Campus Paris et on retrouve Nelle et Jessica qui reçoivent Anne-Marie Guimard, professeure émérite des universités en sociologie à l'Université Paris-Descartes.
Madame Guimard, le financement des retraites est aujourd'hui en danger. On pense d'ailleurs à augmenter l'âge de départ à la retraite. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots les raisons de ces changements ?
Alors, je ne suis pas certaine que le système soit en danger. En tout cas, ce n'est pas le... Ce n'est pas ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Il dit qu'il y a un déficit, mais en même temps, il insiste, le président du Conseil d'orientation des retraites, depuis toujours, insiste sur le fait qu'un déficit, ce n'est pas le chiffre qu'il faut regarder, et ce que les gouvernants regardent. Au contraire, il faut regarder le pourcentage de PIB qu'on consacre aux retraites dans un pays, parce que ça, c'est le bon indicateur de l'effort national fait pour la population retraitée. Et c'est ce chiffre-là, ce pourcentage-là, qui doit rester stable. Et dans le cas français, ce pourcentage-là est stable jusqu'en 2050. Donc on n'a pas trop de préoccupations. Bon, bien sûr, il y a des aléas. Il y a le fait que il y a des ralentissements de la croissance, etc., qui font qu'il y a moins de rentrées de cotisations, parce qu'il faut bien voir que si nos gouvernants aujourd'hui disent qu'il faut retarder la retraite, en fait, c'est pour allonger la vie active. Et c'est ça le facteur important, c'est allonger la vie active. Parce que allonger la vie active, ça signifie moins de retraites à payer parce que les gens seront en emploi et qu'en plus ils cotiseront. Donc vous avez un double dividende quand vous allongez la vie active, puisque vous avez moins de retraites à payer et plus de cotisations qui rentrent. Donc c'est un facteur inégalé pour équilibrer les comptes sociaux et équilibrer les comptes de la retraite. Le problème, c'est qu'en France, on n'arrive pas à allonger la vie de travail. Mais justement... On repousse l'âge de la retraite. Et c'est là qu'on est mauvais, parce que tous les autres ont joué sur deux vecteurs. Le vecteur de la réforme de l'âge de la retraite, mais en parallèle, le vecteur de l'emploi, du marché du travail. Comment on peut aider les personnes et les entreprises à prolonger la vie de travail. Et là-dessus, la France n'a rien fait.
Vous parliez avant la pause des, justement, NINI, ces personnes qui n'ont aucun revenu. Est-ce que vous avez des solutions sur lesquelles vous avez travaillé qui permettraient justement de les intégrer dans le milieu du travail, puisque les seniors sont malheureusement écartés rapidement dès leurs 50 ans du milieu du travail?
Ce n'est pas un problème de l'emploi des seniors, c'est un problème de rendre attractive la prolongation de la vie de travail. Rendre attractive pour les employeurs et rendre attractive pour les salariés. Donc il faut jouer, mais vous voyez bien que c'est des actions en termes de marché du travail, pas du tout en termes de réforme des retraites. Les réformes des retraites, on les a faites, mais il n'y a pas les résultats escomptés, puisque les NINI, ils touchent au moins des minima sociaux, du chômage ou de l'invalidité. Donc, ils pèsent sur la protection sociale. Et ils ne rapportent pas, puisqu'ils ne cotisent pas, lui. Donc, vous voyez bien qu'on fait fausse route et qu'il est urgent qu'en France, on entame une réforme du marché du travail. Et la Finlande a été très exemplaire là-dessus, pour les mêmes raisons, parce qu'ils avaient une population extrêmement vieillie, une population active, extrêmement vieillie. Ils ont dit, il faut qu'on prolonge l'activité. Et pour ça, on va faire une réforme du marché du travail pour rendre attractifs les seniors pour les entreprises et rendre la prolongation du travail attractive pour les seniors. Mais ça, ça se fait avec beaucoup de prévention. Donc, vérifier développer la santé au travail pour tout le monde, mais aussi pour les 40 ans. Donc, ça se fait aussi sur le parcours. Il n'est plus question de l'âge. C'est des choses préventives. Donc, une action préventive sur le parcours de vie pour permettre aux gens, pour rendre le travail soutenable aussi. Parce qu'on ne prolonge pas la vie active en changeant l'âge de la retraite. On le voit bien. Il y a des gens qui ne peuvent pas prolonger. Donc, ça veut dire qu'il faut agir en amont et qu'il faut rendre le travail plus soutenable. Donc, supprimer les pénibilités, les alléger autant que possible. Voilà.
Ce que j'ai compris de vos propos aussi, c'est que vous proposez un âge de rentrée à la retraite flexible.
Oui.
Du coup, c'est à des gens de voir s'ils sont en bonne santé ou pas, de travailler, parce que quand même, il me semble que les ninis, ils ne travaillent pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Il y a Exactement. Quand même des raisons. Mais du coup, avec un âge d'entrée flexible, est-ce que tout le monde ne va pas prendre sa retraite plus tôt et du coup, on n'a personne qui travaillera?
Non, enfin, il faut un âge plancher, c'est ce qu'a fait la Finlande. Ils ont pris 62 ans comme âge plancher. À partir de 62 ans, vous pouvez liquider. Vous avez le droit aussi, pour certains, d'arrêter plus tôt si vous êtes en invalidité, etc., ou de prendre une retraite progressive, par exemple, donc d'alléger le temps de travail. Nous, on est toujours, en France, très... vous êtes full-time au travail ou plein temps retraite. Il y a une sorte de rupture, de couperet, en quelque sorte. La retraite couperet. Et là, ce serait ce qui s'est passé en Finlande. Il n'y a plus d'âge légal de la retraite. Je pense que c'est un non-sens aujourd'hui. Les gens sont trop différents à un même âge pour qu'on conçoive un âge de la retraite.
Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que l'État s'associe aux entreprises pour développer la formation des seniors pour pouvoir justement, pour leur permettre de faire un autre métier en fin de carrière ?
Je pense qu'il faut que l'État accompagne les entreprises. Ça sera, il faut leur montrer qu'elles font un mauvais calcul en termes de compétitivité, de leur compétitivité, mais... En France, on n'a jamais parlé ce langage-là aux entreprises. Donc, ça veut dire un gros effort en termes de formation continue. Nous n'y sommes pas en France en termes de formation continue. La formation après 40 ans reste quelque chose de relativement trop bas.
Et justement, cette inactivité des seniors, tend à mettre en opposition la jeunesse et les seniors. Ils sont montrés comme des poids pour la société. Pourtant, on l'a vu dans le reportage avant, la précarité des uns se retrouve souvent dans la précarité des autres. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, la jeunesse et la vieillesse, c'est le même combat ?
Je le pense. En termes d'emploi, très certainement. Mm-hmm. Je suis convaincue qu'un des problèmes majeurs en matière d'allongement de la vie, c'est effectivement de veiller à reconstruire le pacte de solidarité générationnelle. Parce que le pacte de solidarité générationnelle, on l'a fait en 1945 quand on a construit l'assurance vieillesse. Il y avait trois générations coexistantes et on a dit, parce que les vieux étaient les pauvres de la nation à cette époque-là, donc on a dit, on va créer une assurance vieillesse, une retraite pour les vieux, en échange de quoi les jeunes actifs gardaient l'emploi. Mais l'emploi, c'était sur 50 ans de vie à l'époque. Aujourd'hui, nous avons quatre générations coexistantes du fait de l'allongement de la vie et tout s'est compliqué. Dans les réformes successives des retraites, on a dit la retraite c'est plus tard et moins généreux. Et résultat, c'est pour qui? C'est pas pour les retraités actuels. Et c'est évidemment pour les jeunes et les adultes actifs. Donc, mais on ne leur a rien donné en échange. Donc on a complètement oublié cette solidarité et cette nécessaire équité entre les générations pour que ce soit mutuellement profitable.
Merci, il faut qu'on termine malheureusement, mais on va garder la solidarité entre les générations dans tête. Et on vous remercie beaucoup. Merci, Anne-Marie Guémard.
Roulez vieillesse, l'émission où les jeunes ne sont pas ceux que vous croyez.
Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ?
Assez parlé des retraites et posons-nous pour un petit moment détente avec la chronique d'Anna qui va nous présenter une comédie bien originale.
Bonjour à tous. Toujours dans la thématique de la vieillesse, j'aborde aujourd'hui le film actuellement en salle, à l'humour bien british, Good Luck to You, Leo Grand. Dirigé par Sophie Hyde, l'actrice oscarisée Emma Thompson et le comédien Daryl McCormack crèvent l'écran avec leur alchimie.
Salut, je suis Léo, tu dois être Nancy. Je peux entrer ?
Oui. Donc, j'ai préparé une liste de différentes choses que je voudrais faire. Oh. Numéro 1, je pratique le sexe oral sur toi. Numéro 2, tu pratiques le sexe oral sur moi. Numéro 3, je voudrais qu'on fasse un 69, si ça n'a pas changé de nom. Numéro 4, je me mets sur toi et pour terminer, en levrette.
D'accord, ça m'a l'air tout à fait faisable.
Le temps réservé suffira ?
Tu veux qu'on fasse tout ça aujourd'hui ?
Oui, non. Je n'ai jamais eu d'orgasme. Il y a des bonnes sœurs qui ont bien plus d'heures de vol que moi, c'en est gênant. Tu veux que je me brosse les dents ? Oh là là.
Allez, Nancy.
C'est affreux.
Nancy.
Oui.
Venez danser avec moi.
Oui. C'est ton vrai nom, Léo Grandet ? Pourquoi vous faites ça ?
Ce travail sert à financer mes études.
Ah, mais c'est merveilleux. C'est vrai ?
Non.
Toute ma vie, j'ai eu honte de mon corps.
Tu as un beau corps, si seulement tu pouvais le voir. Chacun a des besoins différents. Je ne juge aucun de mes clients, sauf si c'est des connards finis.
Je n'ai jamais rien fait de vraiment exceptionnel dans ma vie. Tu es la seule aventure que je me sois accordée. Quel âge avait la personne la plus vieille avec qui vous l'avez fait ?
82 ans.
82 ? 82 !
Nancy.
D'accord, je me sens un peu mieux.
Se retrouvent dans les quatre mêmes murs d'une chambre d'hôtel, une jeune retraitée récemment veuve et un jeune travailleur du sexe. Ce film a été pour moi une bonne surprise. Je m'attendais à voir une comédie relativement osée au vu du synopsis et du décor. Le sujet du film n'est finalement pas la sexualité, mais il aborde de manière plus profonde le rapport à soi, à son corps, à sa mère et à ses enfants. De longs dialogues constituent la globalité du film. Le parallèle entre un jeune garçon renié par sa mère à seulement 15 ans et une mère déçue par ses propres enfants m'a mis les larmes aux yeux. Le film est construit en 4 actes, 4 rendez-vous, se déroulant en temps réel. Il suit le schéma narratif classique des comédies romantiques avec l'évidente dispute aux 3/4 du film. Nous plongeons directement dans leur intimité. On ressent d'ailleurs un léger sentiment de voyeurisme qui peut mettre mal à l'aise. La réalisatrice intègre le débat autour de l'activité du travail du sexe dans les discussions entre Nancy et Léo. Elle ressent un fort sentiment de culpabilité, on a eu recours à lui. Il lui explique alors, de manière à mon goût peu nuancée, le bonheur qu'il possède à faire plaisir à ses clients. Je continue sur ce qui m'a déplu. Pour illustrer que l'ancienne professeure est en décalage avec la modernité, on la présente très conservatrice. Elle évoque son horreur pour les jupes de plus en plus courtes, une justification pour les agressions sexuelles, selon elle. Je ne cesse aussi d'imaginer le dégoût que je ressentirais à la vue de certaines scènes si les rôles avaient été inversés. Mais c'est cette inversion qui rend le film intéressant. Sophie Hyde se réapproprie le male gaze, un concept théorisé par Laura Mulvey. Il exprime la systématique sexualisation des femmes par la manière dont elles sont filmées dans le cinéma. Ici, c'est Léo qui est sexualisé par la caméra, mais surtout par le regard de Nancy qui le regarde lascivement, encore nu, allongé sur le lit. Une scène typique de nombreux films où c'est l'homme qui observe de cette manière la femme. Le personnage de Léo est un fantasme écrit pour séduire ses clients, mais aussi le spectateur. Personnellement, je tombe carrément sous son charme. Ses jolies chemises rentrées dans ses pantalons vintage style années 40 le rendent plutôt irrésistible. Je m'attache alors. Je pense que la relation qu'il entretient avec Nancy est particulière et privilégiée. Je vis alors comme une véritable trahison quand Léo aborde ses autres clients, qui semblent tout aussi importants à ses yeux. Pour les aficionados d'action et de vitesse, ces 97 minutes vous paraîtront sûrement longues. A l'inverse, pour ceux qui ont adoré En thérapie de Toledano et Nakache, si le dévoilement en huis clos progressif et lent de la personnalité et histoire des protagonistes vous fait kiffer, je ne peux que vous le conseiller.
Merci beaucoup Anna. Je rappelle, good luck to you Léo Grandet, en français, mais rendez-vous avec Léo et toujours dans vos salles.
Roulez vieillesse, l'émission où les jeunes ne sont pas ceux que vous croyez.
Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui ?
Tout de suite, faisons un petit tour du monde en nous penchant sur la question du traitement de la vieillesse dans différentes cultures en compagnie de Ayelen, Gloria et Chloé. Vous êtes toutes les trois parties à la rencontre de trois personnes, dont ton cousin, Ayelen, ta grand-mère, Gloria, et ta mère, Chloé, pour échanger autour de ce sujet dans le cadre de petits portraits croisés. Alors, racontez-nous un peu ce que vous avez pensé de ces moments et pourquoi avez-vous choisi d'aborder ce sujet ?
J'ai choisi d'interviewer mon cousin, Bruno Gabriel Cáceres Salas, 32 ans et avocat de profession. Il a passé une grande partie de sa vie dans sa maison de famille à Arequipa, au Pérou. Il y a vécu avec trois générations, ses parents, sa grande-tante et son arrière-grand-mère. Son point de vue de jeune homme actif, qui a côtoyé la vieillesse toute sa vie en évoluant dans une société péruvienne où tradition et modernité se rencontrent, me semblait dès lors très intéressant.
Moi, j'ai interviewé ma grand-mère, une douce dame italienne, car je crois que l'esprit italien réside en elle. Elle a connu beaucoup des changements culturels et sociaux tout au long de sa vie, ce dont elle peut témoigner. En outre, elle est l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Elle aime follement sa famille et a toujours tout fait pour rester en contact avec nous, petits-enfants, s'adaptant presque parfaitement aux nouvelles technologies. Dominica Celani, c'est son nom, et elle est plus connue comme Mimita, et elle a 96 ans. Elle a travaillé comme couturière dans une usine depuis qu'elle était jeune. Actuellement retraitée, elle habite seule dans un appartement à Ascoli Piceno.
Alors, moi, déjà, c'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'on a pu constater des nuances entre les cultures. Donc, moi, j'ai questionné, pour ma part, ma mère. Donc, elle s'appelle Sylviane Cavigny-Brieux. Elle a 51 ans. Elle est adjointe administrative au service des moyens dans une mairie de Seine-et-Marne. Nous avons vécu quelques années avec mon grand-père qui était malade. Donc, selon moi, son point de vue est pertinent. Née aux Antilles, elle est venue en métropole dans sa jeunesse, donc elle a donc vécu aux Antilles et grandi avec un héritage culturel caribéen très présent. La notion d'esprit de famille et de prendre soin des aînés est alors au cœur de son éducation et de la mienne.
Tout de suite, les témoignages.
Pour commencer, à votre avis, comment traite-t-on les personnes âgées chez vous ?
Au Pérou, on traite les personnes âgées avec beaucoup de respect. On leur confère une autorité naturelle. Elles sont considérées comme un exemple à suivre et on suit toujours leurs indications, leurs conseils. Dans mon expérience personnelle, les personnes âgées dans ma famille ont toujours été un point de repère, de réconfort, de relations de confiance, de tendresse, d'aide permanente. Et mon souvenir de celles-ci est très important dans ma vie, car je considère qu'elles ont toujours été une source d'inspiration, d'exemple à suivre, et principalement comme des figures de confiance et de protection. Personnellement, je ne laisserai pas mes parents en maison de retraite. J'ai prévu de toujours les avoir à mes côtés, dans ma maison d'enfance, dans le quartier de Graficos à Arequipa, où j'aimerais qu'ils vivent toujours accompagnés, avec les soins d'un personnel de santé ou d'une infirmière, et toujours avec des visites régulières de ma part, en ne les laissant pas seuls, mais en les accompagnant toujours, jusqu'à leur dernier jour.
Pour ce qui concerne la façon dont on s'occupe des personnes âgées en Italie, nous avons des universités du troisième âge, les visites guidées aux musées et centres culturels, les associations pour les anciens, des cours de danse, de lecture en bibliothèque, des cours de culture, de buraco, de jeux de cartes. Dans ma ville, il y a le directeur de la Pinacothèque, M. Papetti, qui accueille les personnes âgées pour leur faire visiter toutes les salles de la galerie d'art. En parlant de la famille, je remercie Dieu. Je vis toute seule, mais le premier bonjour, c'est toujours pour les familles de mes enfants. En général, en Italie, les personnes âgées restent en famille. On vit souvent dans les mêmes immeubles. Dans mon quotidien, je range l'appartement et je passe mon temps, je passe ma journée à faire de la couture. J'adore coudre afin de créer quelque chose.
Eh bien, pour nous, les Martiniquais, la personne âgée est une personne précieuse dont on prend soin. Elle a un savoir dû à son expérience de la vie, donc du coup, ça se respecte. Généralement, elle vit chez elle. Ses enfants ou petits-enfants ne la laissent pas seule la nuit, ils dorment avec la personne âgée. Si cette personne a peur la nuit ou pour tout simplement ne pas la laisser seule. Tout est fait pour maintenir la personne âgée dans son domicile. La maison de retraite reste un dernier recours. Le quotidien d'une personne âgée, Martinique, c'est prendre soin d'elle. S'occuper de son intérieur et de son jardin. Le jardin antillais est un rituel. Il y a des plantes médicinales, il y a des légumes pour se nourrir. Donc la personne âgée, actuellement, elle a l'habitude d'avoir son petit jardin. À la Martinique, les personnes âgées, elles vivent paisiblement. Tout est fait dans la douceur. Pour moi, il me serait très difficile de mettre un de mes proches à la maison de retraite. Mes parents sont décédés avant que je n'aie eu à me poser ce genre de questions.
Et comment aimerez-vous qu'on s'occupe de vous quand vous serez vieux ?
Une fois que je serai devenue une personne âgée, je souhaiterais que les personnes qui font partie de ma famille, que ce soit mes enfants ou mon épouse, je souhaiterais qu'ils s'occupent de moi dans le sens où je voudrais qu'ils m'apportent l'amour que j'aurais pu leur donner tout au long de ma vie et que ce soit une relation d'échange réciproque. Et si je devais avoir besoin de soins particuliers, j'aimerais que l'on s'occupe de moi sur le plan de la santé, dans les relations sociales aussi, dans la mesure où ils puissent toujours m'accompagner, ou s'ils ne vivent pas dans ma maison, qu'ils me visitent, me soutiennent, et ce, durant toute la vie.
Je pense que la meilleure façon de s'occuper d'une personne âgée est de rester à son côté, peut-être de l'écouter un peu plus et de le faire parler.
Exactement comme à la Martinique. La seule chose qui m'embêterait pour mes proches, c'est la perte d'autonomie, que ce soit mentale ou physique. J'espère et je souhaite qu'ils me placent dans un institut si c'est vraiment nécessaire. Il n'est pas question qu'ils aient cette charge très lourde à supporter.
Et qu'est-ce que la vieillesse pour toi ?
Dans mon lien avec la vieillesse, j'ai toujours considéré celle-ci comme un synonyme de sagesse, d'expérience, un reflet qui nous fait accomplir des choses personnellement, en prenant en considération certains conseils de nos anciens, pour soi-même dans sa propre vie. Et j'ai vu aussi cette vieillesse avec une certaine crainte, parce que je considère que la mort donne lieu à des réflexions philosophiques sur la vie, qui te font apprendre et valoriser chaque minute de la vie. Parce que la mort et la vieillesse te font prendre conscience de la finitude de la vie, et de là l'importance de l'expression Carpe diem.
Te hace ser consciente de la finitud de la vida. Y allí es la importancia de la frase Carpe diem.
Pour moi, vieillir est synonyme du résultat d'une vie vécue avec honnêteté et envie de faire.
Pour moi, c'est la sagesse. Parce qu'on a tant appris durant toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse, on va dire, jusqu'au fait d'être une personne âgée, qu'on a de l'expérience, que l'on peut inculquer à ses proches, même à des personnes que l'on ne connaît pas. Et on voit la vie autrement, on peut relativiser plus facilement et amener les autres à en faire de même.
Merci à Hélène, Gloria et Chloé. Restez branchés, on se retrouve dans quelques secondes pour la dernière interview de l'émission. Depuis le début de cette émission, nous avons évoqué le sujet de la vieillesse sous diverses formes. Je vais maintenant laisser la parole à Zoé et à Delina, qui vont nous parler des différentes façons de vieillir quand on est lesbienne.
Nous aimerions à présent vous parler d'un sujet qui fait peu partie de nos quotidiens de manière générale, vieillir quand on est homosexuel et plus particulièrement lesbienne. Mais qu'est-ce que ça sous-entend, vieille lesbienne ?
Eh bien, dans ma vie, j'ai été entièrement et absolument lesbienne. Et vous employez le mot vieille lesbienne, en effet, j'ai 3/4 de siècle sur les épaules.
Le champ d'études français est peu développé concernant ce sujet à la croisée de la sociologie de la vieillesse et de la sociologie du genre et des sexualités. Qu'est-ce qu'une vieille lesbienne ? À quoi ressemble son quotidien ? Et de manière générale, où sont-elles ?
Qu'est-ce que cela implique de vieillir en lesbienne ? C'est un des sujets de la chercheuse Jeanne Durour qui vient tout juste de commencer une thèse à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Nous l'accueillons justement dans notre émission. Bonjour Jeanne. Après avoir écrit un mémoire intitulé en partie « Vieillir en lesbienne », tu commences ta thèse sur les vieillirs homosexuels et les relations chez les gays et les lesbiennes de 60 ans et plus en France. Pourquoi avoir choisi ce sujet initialement ?
Alors pourquoi avoir choisi ce sujet ? Donc c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler en master 1, donc il y a 2 ans. Et pourquoi avoir travaillé là-dessus ? Parce que j'étais à moitié concernée par mon sujet. Alors je suis très loin d'avoir 60 ans, j'en ai même 40 de moins. Mais c'est un sujet qui m'a intéressée d'abord par l'entrée sur la sociologie du genre. Et pour tout dire, en fait, c'est en allant au cinéma que j'ai découvert ce sujet, puisque j'étais allée voir le film 2 qui raconte l'histoire d'amour caché de deux femmes âgées. Et en sortant de la séance, j'avais été assez marquée et j'ai voulu chercher si... étant déjà étudiante en sociologie à ce moment-là, s'il n'y avait pas des travaux là-dessus sur l'homosexualité quand on est âgé. Et il se trouve qu'en français, il y avait très, très, très peu de choses. Donc pour mon master, j'ai décidé de commencer à travailler là-dessus.
Alors justement, dans le documentaire Les Invisibles de Sébastien Lifshitz, on remarque qu'il n'y a pas une manière de vieillir en tant que lesbienne, mais bien plusieurs trajectoires différentes. Par exemple, Catherine et Elisabeth quittent leur entreprise parce que leur relation n'est pas tolérée. Licenciée parce que lesbienne, elle décide de partir à la campagne acheter une ferme. On a Monique, une éternelle passionnée qui vit des relations plurielles en parallèle de son militantisme, ou encore Thérèse, qui découvre sa sexualité très tardivement et refait sa vie à 42 ans. Dans tes entretiens, tu relèves pourtant des similarités dans ces vieillesses lesbiennes. Qu'est-ce qui, selon toi, est commun à ces parcours de vie ?
Alors, ce qui serait commun au parcours de vie de toutes les vieilles lesbiennes, c'est un peu difficile à dire, puisque, comme tu l'as souligné dans le documentaire, on voit surtout des parcours très, très, très différents selon les femmes, avec certaines qui sont lesbiennes très tôt, d'autres qui le découvrent très tard, qui vivent dans différents endroits. Et trouver quelque chose de commun aux vieilles lesbiennes. Je suis pas sûre qu'il y ait une réponse possible à ça.
Et à un autre moment dans Les Invisibles, toujours, Monique dit ceci en parlant de sa jeunesse.
Si je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants, moi je me disais, je vais pas me taire, j'ai une vie, c'est suspect de pas parler de ma vie. Je me souviens très bien de m'être dit comment faire, parce que c'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains et je disais, moi j'ai pas le même vécu, moi je vis avec une femme ou j'ai une amie. Et les gens étaient abasourdis, ils s'en doutaient pas, je le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça, ah bon ? Et ça me plaisait ça, parce que je disais, eh ben oui, tu vois, on se ressemble, mais moi, c'est pas un garçon.
Et donc, dans l'expérience de la vieillesse lesbienne, qu'est-ce qui différencie le couple lesbien et du couple hétéro ?
Alors, dans l'expérience de la vieillesse, pas mal de choses déjà. Donc là, on parlait du fait de se cacher ou pas. Il y a évidemment la question de le dire ou non qui se pose pour les lesbiennes et qui se pose assez peu pour les hétéros, et ce que j'avais remarqué, c'est qu'avec le vieillissement, il y avait peut-être de plus en plus une sélection à qui on le dit, avec des préférences pour le dire aux enfants, la question de est-ce qu'on en parle à ses propres parents si c'était pas forcément au courant avant, et surtout est-ce qu'on va le dire à des personnes extérieures au risque de s'exposer. Voilà, c'était quand même un choix qui se posait davantage, mais qui s'est posé au final pour la plupart durant toute leur vie. Et ce qui différencie leur couple, je pense qu'il y a aussi des modalités relationnelles qui sont différentes chez les lesbiennes, pas forcément à partir de la vieillesse, hein, qui date d'avant, avec peut-être davantage de souplesse dans les relations, des configurations auxquelles on peut penser, par exemple du multipartenariat ou non, qui est en tout cas des choses qui sont discutées, qui se posent, et qui se posent peut-être moins pour les hétéros, en tout cas pas pour les générations précédentes. Et je pense que c'est surtout ça qui change. Avec aussi des questions d'âge qui diffèrent entre les couples, puisque généralement dans les relations hétéro, les hommes sont un peu plus âgés que leurs femmes, et surtout meurent plus rapidement, donc davantage de femmes hétéro qui se retrouvent veuves une partie de leur vieillesse. Dans les relations lesbiennes, c'est un peu différent, puisque les écarts d'âge sont certes plus élevés, mais cette question se pose moins des femmes qui vont se trouver à être seule parce que leur compagnon plus âgé est décédé et qu'elles ont du mal à retrouver un compagnon qui, du côté des hommes hétéros, cherche davantage des femmes plus jeunes à cet âge-là. Et je pense que c'est ouais, les grands traits saillants pour les couples lesbiens.
Alors justement, on voit que vivre la vieillesse, c'est différent selon si on est homo ou hétéro. Et pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre la vieillesse pour les lesbiennes, qu'est-ce qui différencie en fait les lesbiennes de leurs confrères homosexuels dans l'expérience de la vieillesse ? Est-ce qu'il y a une différence en fait ? Et si oui, laquelle ?
Alors ça, c'est une question que j'ai pas beaucoup explorée pour l'instant, puisque j'ai inclus les gays âgés dans ma thèse qui a commencé il y a 2 mois, mais pas dans mon mémoire, donc j'ai pas encore beaucoup d'éléments là-dessus. Mais je pense que oui, en effet, il y aura des différences, notamment dans le rapport au vieillissement, à son propre corps, avec la représentation qui est encore questionnée, hein, mais d'une culture gay où le corps jeune est très valorisé, ce qui est moins le cas chez les lesbiennes, avec une façon d'aborder les écarts d'âge qui n'est pas la même non plus, avec chez les gays peut-être plus une tendance à pouvoir accepter des couples avec des grands écarts d'âge, ou en tout cas des relations pas forcément conjugales avec de forts écarts d'âge, qui reste moins le cas chez les lesbiennes, en tout cas d'après les quelques données qu'on a en ce moment en France. Et peut-être un rapport à la sexualité qui est différent aussi, avec des hommes qui vont peut-être pouvoir prolonger leur sexualité plus longtemps, puisque l'ensemble des cercles de sociabilité gay mettent d'abord davantage en avant la sexualité, ce qui est moins le cas chez les lesbiennes, où la sexualité est davantage reliée au couple.
Et en parlant de sociabilité, maintenant j'aimerais bien t'interroger sur la famille, parce qu'on a souvent le stéréotype de la personne homosexuelle qui a coupé les ponts avec sa famille. Et toi, tu as l'air d'avoir plutôt constaté l'inverse dans les entretiens que tu as menés. Dans ton étude, tu dis que c'est toujours aux femmes, qu'elles soient lesbiennes ou hétéros, que revient la tâche du care. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le care et ce que tu as constaté ?
Alors le care, donc oui, c'est au sens très large prendre soin, ce qui peut regrouper beaucoup de pratiques différentes. Et pour les lesbiennes âgées, beaucoup ont des parents qui sont encore plus âgés qu'elles, et donc en situation, ce qui a déjà été évoqué un petit peu avant, donc qui va prendre soin des parents vieillissants. Et en effet, prendre soin de la famille, et notamment prendre soin de ses propres parents âgés, c'est ce qui a déjà été appelé une affaire de femme. Et ce qui a été montré dans diverses études en sociologie de la famille. Et donc, en effet, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que ces femmes lesbiennes qui, pour certaines, ont été rejetées de leur famille, envisagent aussi ce care, ont les mêmes liens que leurs homologues hétérosexuels. Et ce que j'ai pu constater dans mes entretiens, c'est que déjà, pour une partie de mes enquêtées, elles n'étaient pas forcément isolées de leur famille, elles n'avaient pas forcément coupé les ponts. Mais il y avait quand même des situations de rejet ou en tout cas de réaction assez violente, avec des liens plus ou moins distendus. Et ce que j'ai observé, c'est que qu'importe les situations familiales, qu'elles aient ou non rompu les ponts avec leurs parents,
au moment où ceux-ci étaient en situation de demande d'aide, parce qu'en perte d'autonomie, elles répondaient présentes pour les assister, pour les aider, pour les soigner, avec des cas très marquants de certaines femmes qui n'avaient pas revu leurs parents depuis une vingtaine d'années, voire plus, à cause du rejet, justement, et qui, dès qu'elles recevaient un coup de fil de leurs parents les appelant à l'aide, acceptaient immédiatement et prenez ça en charge. Ce qu'on demande beaucoup, beaucoup moins aux fils. Et la question sera à creuser de est-ce que c'est quelque chose qu'on demande aux hommes gays qui peuvent avoir des positions différentes dans les chaînes familiales.
Dans Les Invisibles, Elisabeth témoigne.
C'est elle qui voulait une ferme tout le temps. Donc c'était son rêve, c'est d'avoir une ferme. Ben, je l'ai suivie, quoi. Je trouvais que c'est une aventure... Et puis parce qu'on était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres.
Elle parle donc de marginalité et on associe souvent la vieillesse à la solitude et à un certain isolement social finalement. Toi, qu'as-tu constaté chez les lesbiennes seniors ?
Alors c'est vrai qu'il y a souvent l'image de la vieille lesbienne qui va être seule, isolée, sans lien, cachée. C'est quelque chose que j'ai assez peu retrouvé dans mon enquête, parce que déjà elles ont encore, donc comme je l'ai dit, des liens avec leur famille. C'est vrai que j'ai parlé que des ascendants précédemment dans la famille, mais beaucoup d'entre elles avaient des enfants et aussi parfois des petits enfants, et aussi bien sûr un réseau amical qui est peut-être davantage développé encore pour des lesbiennes qui ont plus compté sur ces relations entre pairs que sur des relations avec leur famille. Et donc pour la plupart, elles avaient comme des cercles assez variés, mais des cercles de sociabilité assez forts, que ce soit au niveau amical, au niveau associatif aussi, puisque beaucoup, notamment avec la vieillesse, avaient commencé à s'engager dans diverses associations, notamment pour trouver de la sociabilité. Et les seuls cas vraiment d'isolement que j'ai pu observer, c'était aussi au croisement de d'autres facteurs, notamment un facteur de classe et un facteur géographique. Donc c'était des femmes qui étaient plutôt de classe populaire, issues de classe populaire, et qui avaient vécu dans des zones assez rurales et éloignées des grandes villes, et qui n'avaient pas forcément eu l'occasion justement de rencontrer d'autres lesbiennes ou d'autres homosexuels, de fréquenter des associations ou d'autres lieux de sociabilité. Et qui, oui, pour le coup, pouvaient expérimenter cette marginalité dont toutes ne souffrent pas. Elles ne vont pas forcément chercher forcément avoir des liens avec d'autres lesbiennes. Certaines sont totalement à l'aise avec le fait d'avoir peu d'amis qui ne vont pas forcément être au courant de leur vie affective et sexuelle, mais ça leur convient tout à fait.
Du coup, en fait, il y aurait plutôt un facteur géographique qui serait vraiment plus la cause d'un certain isolement, même si ce n'est pas la majorité.
Géographique et aussi de classe, parce que ouais. Voilà, savoir qui va pouvoir bouger ou pas, qui va pouvoir avoir des mobilités.
Et justement, on se posait la question où vieillissent-elles ces vieilles lesbiennes. On voyait que les maisons de retraite LGBT n'existent pas encore en France, mais selon le journal Le Monde, le projet est en cours, notamment dans la ville de Lyon. Il y a une maison dite de la diversité qui ouvrira en 2024. Et qui proposera un hébergement aux seniors se sentant en difficulté en raison de leur orientation sexuelle. Est-ce que tu as constaté, toi, dans tes travaux, une disparité entre les villes et les campagnes ? Qu'est-ce que ça peut représenter ?
Alors, c'est vrai que j'avais essayé d'avoir un échantillon assez varié dans mon enquête, en interrogeant autant des femmes qui vivent à la campagne que dans des petites villes ou proches de grandes villes. Où vieillissent les lesbiennes, là il faudrait plus faire appel aux statistiques, puisque mon enquête ne va pas suffire à elle seule à répondre à ça. Alors hors des grandes villes, et notamment des grandes métropoles françaises, oui je pense plutôt, pour diverses raisons, qui commencent en partie avant la vieillesse. Il y a les travaux de Wilfried Rowe notamment, qui ont montré que les lesbiennes avaient plus tendance... dès, il me semble, la trentaine, à essayer de s'installer dans des plus petites villes, hors des grandes villes qu'elles ont pu fréquenter avant, à s'installer en couple, à éventuellement avoir des enfants. Donc il y a des lesbiennes qui sont déjà hors des grandes villes, hors des grandes villes de toute façon. Et après, il y a aussi évidemment une question financière qui se pose, puisque en tant que femme qui
n'ont pas forcément des retraites extrêmement élevées. La question de pouvoir vivre dans une grande ville se pose très fort à la retraite et beaucoup sont en impossibilité en fait, de pouvoir vivre dans ces grandes villes. Et oui, en effet, il y a la Maison de la Diversité qui va apparaître très bientôt, qui sera un projet qu'on peut retrouver dans d'autres grandes villes en Europe et qui va peut-être participer à répondre à où peuvent vivre les vieilles lesbiennes et les vieux LGBTI en général.
D'accord, merci beaucoup pour tes réponses. On aimerait te poser une dernière question. Comment te positionnes-tu dans ta recherche en tant que jeune face à ces discours sur la vieillesse et particulièrement la vieillesse chez les lesbiennes ?
Je me pose plutôt comme en position de découverte, puisqu'elle parle de choses que je ne vis pas encore, mais que peut-être je vivrai plus tard, j'espère. Et donc plus en position d'apprendre des générations précédentes et de voir ce qu'elles ont à nous dire pour qu'on construise nous-mêmes notre propre futur ensuite.
Merci.
Merci Zoé et Adélina. On passe maintenant sur un extrait tiré de la pièce 78ans.com de Frédéric Bubost, où l'on retrouve Odette, une grand-mère soufflant sa 78e bougie. À l'occasion, elle partage avec nous ses ressentis sur son bel âge et ses commentaires sur nos temps modernes.
Joyeux anniversaire Odette ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire !
Odette, enchantée. Vous avez compris ? C'est mon anniversaire. Je déteste. 78 ans aujourd'hui. Je ne sais pas vraiment dans quelle catégorie je suis. Quand je me lève le matin et qu'il faut dérouiller la mécanique, je n'ai aucun doute. Dinosaure préhistorique. Quand j'arrive dans la salle à manger et que je regarde autour de moi, je suis une gamine en visite. Ils sont vieux, ils sont moches, décroulants. Vous me trouvez un peu excessive, j'avoue, mais comprenez. Ce n'est pas parce que l'on est vieux qu'on est forcé de les aimer. Quand j'étais jeune, les jeunes m'ennuyaient. Je préférais des gens plus mûrs. Maintenant, c'est l'inverse. Mes anciens jeunes sont devenus très fatigués. Mais ce que je n'aimais pas chez eux ne s'est pas amélioré en vieillissant. Un con reste un con. Je suis parfois un peu grossière, mais je n'aime pas appeler un chat un félin pour faire plaisir au petit marquis de la Défense de bon usage des mots. Vous avez compris. Malgré mes belles déclarations, je vis au milieu des vieux. Ils appellent cela... une résidence médicalisée, la Rolls des maisons de vieux. J'ai mon appartement, mon indépendance, l'illusion d'être encore chez moi. Au moindre rhume, j'ai un armada de médecins, d'infirmières qui débarquent. Quand j'ai un rhume, je me cache pour me moucher. Ils seraient capables de me mettre dans une couveuse. L'objectif de tout cela ? Que mes enfants aient l'esprit tranquille, les pauvres petits. Ne pas leur créer un stress en plus. Ils sont tout fiers de dire à leurs amis que leur maman va bien, qu'elle est alerte et encore un peu vivante. La vérité, c'est que ce sont des autruches. Ils ne veulent pas se soucier trop des aléas de l'âge. Je les aime, mes enfants. Je dirais plutôt je les aime bien. C'est plus juste. Ils ne me manquent pas vraiment. Je suis un monstre. Je ne vais pas me forcer. Nous ne sommes plus sur la même planète. Il m'arrive même de ne plus du tout comprendre leur charabia, comme leur façon de parler.
Hello, my name is Cédric Langlais and I am the founder of the Bullshit Institute, which has blown its 15th scandal last week. The goal of the...
Un mot sur mon fils. Il a toujours été nul en anglais. Mais quand il me parle de son boulot, c'est un festival d'anglicisme sans queue ni tête. Il me parle de la télé et des émissions en prime time. Quand il voit ses amis, c'est pour un after work. Il m'offre des disques d'anciens chanteurs, des has-been, comme il dit. Et je vous passe les remakes, les brainstorming, les garden parties dans son jardin. Une seconde, hein. N'allez pas croire que je suis aigrie. Au contraire, je trouve ça tout ça très drôle, mais vous faites tous des têtes d'enterrement pour la moindre contrariété. Quelle idée! Vous êtes encore jeune. Profitez, roulez, jeunesse. Vous verrez. Tentez d'éviter de croiser son regard dans la glace, ce n'est pas toujours marrant. 78 ans, les trois quarts et des poussières d'un siècle. Et les poussières, à mon âge, sont lourdes à porter. Parlons un peu statistiques. Je suis dans la moyenne. Il me reste 4 à 6 ans. Après, c'est du bonus. Je les vois dans cette maison. On les fête les anniversaires des gens qui ont 95, 98, 104 ans pour la Record Woman. Bravo! On applaudit. Tu parles. La plupart ont dans les bons jours quelques heures de lucidité. Parfois même pas. Des machines au ralenti qui ne parlent plus, que l'on nourrit, que l'on lave, qu'on lève, qu'on couche. Ce n'est pas ça la vie. Ma dernière heure, je ne veux pas la vivre affalée devant un poste de télévision dans une salle commune. Je veux qu'elle arrive dans un rire, dans un sourire ou en dégustant un bon mon basilac, mon péché mignon, ma gourmandise. Ou alors, le bonheur suprême, mourir pendant un orgasme. Je viens de dire un mot que vous n'êtes pas habitué à entendre dans la bouche d'une femme de mon âge. J'adore comme vous semblez gênée. Ce n'est pas un gros mot. Et puis, j'ai vécu cela avant la plupart d'entre vous. J'avais un peu moins de 30 ans en 68 et je n'ai pas donné ma part aux copines. Sentir les sensations dans mon corps et puis, tout s'arrête.
Pour terminer, Ayelène a voulu retranscrire nos réflexions dans l'élaboration de cette émission sur la vieillesse.
Paris, dans les couloirs du métro, s'empressant, la peur d'arriver en retard, on les dépasse. Puis, en rentrant dans le premier wagon, une âme charitable se dévoue pour leur céder une place. À nos mamies adorées, à nos papis grincheux, à Jacqueline qui discute pendant 15 minutes avec la caissière de Monoprix et derrière elle, une file de 10 Parisiens aigris, à nos vieux fachos ou nos sages aînés. On a voulu parler d'eux et d'elles aussi, de leur rapport à la vieillesse, à la jeunesse, à la vie, en somme, dans un monde où le temps passé se trouve aussitôt dépassé. Décrépit, sénile, désuet, usé, gâteux, démodé, voilà une petite compilation des synonymes les plus gracieux que l'on a trouvé en tapant « vieux » sur Google. On a voulu dépoussiérer nos a priori, montrer qu'être vieux, vieille, c'est aussi se trouver dans la fleur de l'âge. C'était une ode à la vieillesse, signée Radio Campus Paris.
Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés jusqu'à la fin de cette émission sur la vieillesse. Merci à Léa Capuano de nous avoir donné goût à la radio. Et merci à Jonathan et Jeff pour la réalisation. Et merci à tous nos invités pour ce fabuleux partage autour de la vieillesse. Passez toutes et tous une très bonne soirée. À bientôt.
Les vieillesses, l'émission, les jeunes ne sont pas ce que vous croyez.
Où les vieillesses, nous.